Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et c'est l'émission Les Oreilles Loin du Front qui commence. Et ce soir, on continue notre série autour de l'usine, le collectif Usine et certains des artistes membres de ce collectif, à travers donc des portraits qui ont été enregistrés en décembre 2006, donc à l'usine. Puisque l'usine est à la fois une association, un collectif et un lieu à Arcueil. Mais il se trouve que après 10 ans de présence donc dans ce lieu à Arcueil, dans cette ancienne usine, voilà que ils doivent en partir à la fin du mois de juillet. Et donc ils lancent un appel à locaux, puisqu'ils n'ont toujours pas trouvé de solution de rechange. Donc si jamais un auditeur ou une auditrice a une bonne idée de locaux à louer, donc vous pouvez les contacter en passant par le site www.louzine.net, louzine.net. Voilà, donc ce soir on va découvrir Samira Bahania, Hicham Takaout qui est bassiste notamment de Cher Sylvie Bémol et qui nous parlera lui plus particulièrement de Zalamet. On retrouvera également Mohamed sous son nom de scène Azenzar, Samia Diar et Ourida qui nous parlera du site et de la liste de diffusion Planète des Aides.
Interprète et je fais partie de l'usine. Voilà. Alors mon parcours, il est compliqué, enfin pas compliqué, je pense que c'est l'histoire de tous les gens qui veulent faire de la musique. Et donc j'ai commencé par faire des études normales, après j'ai eu droit à des cours de musique étant jeune, et après j'ai découvert ma passion pour le chant et la musique. Je ne l'ai même pas découvert, je pense que j'ai toujours su. Donc, arrivé au bac et tout ça, à la fac, on commence à un peu s'encanailler. Mm-hmm. à vouloir être à manifester, à être contre, enfin, je sais pas, contre tout le monde et contre la société. Donc j'ai voulu faire de la musique et chanter beaucoup plus sérieusement. Et bon, j'ai commencé à Alger, donc j'ai fait des petits concerts dans les bals de fac et tout ça. Et mon vrai début, on va dire, ça s'est fait dans un film qui s'appelle L'autre monde de Merzak Alouache, et qui m'a permis aussi de, comme la bande originale était faite par Gnawa Diffusion, ça m'a permis d'être découverte et de faire leur première partie à Alger. Donc après, j'ai compris que je voulais faire que ça. Et bon, après, bon, je suis venue à Paris, j'ai fait de la, grâce à un petit festival dans la Drôme qui m'a permis de venir. Et après, j'ai décidé de rester à Paris.
Et quel est ton style musical de prédilection, où il y en
c'est
a plusieurs?
C'est compliqué. Non, mon style, on va dire, j'ai décidé de ne pas m'enfermer dans un style précis, mais on va dire que je fais de la pop world, hein. Donc, parce que je chante en trois langues, donc en arabe, en français, en anglais, et je bouge, je me fais plaisir, je m'enferme pas dans un style, voilà. Donc,
tu fonctionnes avec un groupe ou...
Oui, oui, ouais. J'ai ma propre formation, batterie, basse, guitare, badingue. Moi, je suis à la guitare, voilà.
Qu'est-ce qui t'a fait choisir de chanter en trois langues? C'est venu naturellement?
Je n'ai pas choisi. Uh-huh. C'est venu comme ça. On va dire qu'au départ, j'ai commencé à écrire beaucoup en anglais. Vu que j'étais en Algérie et tout ça, et je voulais chanter des chansons d'amour, des chansons qui parlent de l'existence de Dieu et tout ça. Et comme je n'osais pas le dire en arabe, donc je l'écrivais en anglais. Donc c'est vrai que le choix de la langue, enfin anglaise, c'était vraiment un choix de... c'était un peu une protection. Mais pas protection contre je sais pas quoi, j'avais peur de me faire tuer. Non, pas du tout. C'était me blinder moi, enfin me protéger. Je pense que c'était un début d'ouverture sur l'autre, mais pas à 100%. C'est-à-dire que je m'ouvrais en chantant des chansons d'amour en anglais, mais que je n'aurais jamais osé chanter en arabe devant un public. Maintenant, j'ose. Maintenant, j'explique mes textes. Maintenant, parce que j'ai mûri. Mmh. Mais avant, je n'osais pas. Donc, et c'est aussi le fait que l'Algérie est au carrefour de plusieurs cultures, plusieurs continents. Donc, on est vraiment à la croisée des chemins de la musique, de la culture francophone, anglo-saxonne, africaine, arabe, donc maghrébine, bien sûr. Donc, bon, sans le choisir, t'allumes la radio à Alger, tu tombes sur l'Espagne, tu tombes sur la France, tu tombes sur l'Angleterre, tu tombes sur le Maroc, enfin, c'est super ouvert comme pays. Donc voilà, on n'a pas choisi de recevoir toutes ces cultures. On les a subies, on les a, je pense, mâchées un peu, digérées. Maintenant, on les ressort à notre façon, à notre sauce.
Mm-hmm. Et ta langue maternelle, c'est laquelle ?
L'arabe.
L'arabe. Mm-hmm.
Mm-hmm. Donc j'ai commencé à écrire en arabe. Donc c'est sympa. Moi, j'aime bien. Parce que je dis aussi des trucs, même s'ils sont graves, mais je les dis avec un petit humour, un petit accent, comme ça, un petit clin d'œil, enfin, une autre façon, je veux dire, pas dramatique de raconter les choses qu'on a vécues dans la décennie noire ou rouge, je sais pas comment on veut l'appeler, mais je les raconte un peu plus en rigolant, parce que je pense que ça a été notre façon de résister.
Ton arrivée à l'usine, comment ça s'est fait ?
Et là, écoute, j'ai entendu parler de l'usine à Alger, parce que j'avais déjà vu Cheikh Sidi Bémol, Kadhadi Wendebchar et tout ça, j'étais super fan, bien sûr, j'adore, hein, donc, l'ONB, et je suis arrivée à Paris comme ça, je suis allée à un concert de Cheikh Sidi Bémol dans le 13e d'ailleurs, il pleuvait, tout ça, c'était super sympa, et... Je ne sais plus qui c'est qui m'avait donné. Enfin, c'est Hussein. Voilà, je l'ai vu après le concert avec un autre pote Index, un musicien d'Index. Et il m'a dit, venez, si vous voulez venir, voilà, vous êtes les bienvenus et tout ça. Venez à l'usine et tout. Donc voilà, et bien sûr. Et ce qui est, enfin, dans mon parcours à moi, ce qui m'a ouvert un peu aussi sur l'usine, c'est Khalif Mizi Alaoua, qui m'a permis de connaître d'autres musiciens, enfin de les connaître mieux, on va dire, comme Hassim Boukla, Youssef Boukla, comme je sais pas, plein d'autres musiciens. Maintenant je m'en rappelle pas, mais bon voilà, tous les musiciens qui sont à l'usine. Et aussi il y a aussi un plasticien. Voilà, donc il y a plusieurs activités différentes dans l'usine.
Et toi, qu'est-ce que tu y fais?
Ah ben je répète pour mes concerts, voilà, pour mes concerts et pour l'album, on vient répéter ici, c'est super sympa, c'est calme, c'est humain, c'est divers aussi, parce que ce n'est pas que des musiciens algériens, il y a d'autres musiciens de styles différents, d'ailleurs vous le verrez vous écouterez dans la compil.
J'ai l'impression en t'entendant en parler que ça a été un déclencheur ou un tremplin.
C'est clair que c'est un tremplin. C'est clair que c'est un tremplin et un déclencheur de choses aussi. Hein. C'est normal, je veux dire, de toute façon, c'est notre seule façon d'arriver, je pense. Parce que dans un milieu aussi fermé, milieu musical, actuel, il n'y a pas d'autre solution que de se servir soi-même et de faire les choses soi-même et d'aller vers le public et vers les gens. Avec internet et tout ça, on a l'outil pour arriver, et je pense que c'est la meilleure façon. Je pense qu'on est en train de vivre une période super intéressante de l'usine, c'est-à-dire que les musiciens qui sont venus ici pour répéter ou pour commencer des projets ont mûri et ont compris qu'il fallait commencer à réellement s'unir objectivement et matériellement parlant. Et voilà, je pense que ça va aboutir à des choses très très intéressantes. Et je pense que ce n'est que maintenant que les grands vont se rendre compte qu'on est là. Et qu'il faudra compter avec nous, et ils vont peut-être devenir un peu plus gentils.
Et donc, pour toi, la création donc, à l'usine en France, en Algérie, comment ça se passe?
Ce serait l'idéal d'avoir l'usine à Alger, déjà, en sachant qu'il n'y a pas de salle de répète, qu'il n'y a pas de salle de concert. Il y en a quelques-unes, mais c'est des grandes salles. C'est ce que je disais à plein de journalistes. On ne va pas faire Im Zaydoun tous les week-ends. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire l'Olympia tous les week-ends. T'imagines si à Paris, il y avait deux ou trois salles. Je veux dire, c'est pas possible. Et c'est vrai, Alger, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Il y a un manque réel. C'est grave. Je veux dire, moi, je suis venue, c'est pas par... souci sécuritaire ou par je sais pas quoi, c'est vraiment parce qu'il n'y avait pas d'autre solution pour un musicien, pour un chanteur. Pas d'autre solution. C'est clair, si tu veux vivre de ton art en Algérie, il faut faire les mariages, et ceux qui ne m'intéressent pas. Donc voilà. En France, c'est, tu vois, du tout au rien. Mais bon, dans le sens contraire. Donc c'est super, c'est génial, c'est... Je veux dire, c'est une aubaine pour nous d'avoir un endroit comme ça où on peut répéter le jour, la nuit. Je veux dire, personne ne vient nous embêter pour le bruit. C'est exceptionnel. Les rencontres aussi avec les musiciens, ça m'a permis de travailler pour mon album avec de super grands musiciens. Donc voilà. Donc j'aimerais beaucoup qu'il y ait d'ailleurs... qui est un travail aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire d'essayer de former des gens ou de faire des résidences à Alger, où on pourrait former des gens, ne serait-ce qu'à faire tourner un petit studio de répète pour les jeunes, parce qu'il y a plein de jeunes musiciens en herbe en Algérie, et même plus âgés, qui n'arrivent même pas à répéter, ne serait-ce que pour leur propre plaisir.
Et quels sont les... des difficultés que tu rencontres dans...
Ben, les difficultés sont du fait qu'on n'a pas vraiment les moyens de faire ce qu'on veut réellement faire. C'est-à-dire que c'est compliqué de faire de la scène parce que t'es pas connue ou parce que t'es pas signée ou parce que tu chantes en anglais alors que t'es algérienne ou parce que tu chantes en arabe alors que tu chantes mais en anglais ou parce que t'es française mais tu chantes en arabe. Donc il y a plusieurs complications. Pour une autoproduction, c'est très dur. C'est très dur, mais bon, pour moi, l'essentiel, c'est quand t'as une personne qui vient du public après un concert, qui te dit c'était super, qui a les yeux qui brillent comme ça. Moi, pour moi, c'est ça l'essentiel. Et je me dis que, bon, il y a plusieurs façons d'arriver. Il y a, tu arrives avec ta valise et tu te fais embarquer par un producteur et ça y est. T'as la façon la plus dure, c'est-à-dire une autoproduction où tu dois te démener à trouver les moyens, les gens, les trucs qui veulent participer à cette expérience. Et je pense que c'est encore plus gratifiant parce que si t'as quelqu'un qui vient, qui achète ton album, c'est encore plus gratifiant que quelqu'un qui va acheter un album à la Fnac. Parce que t'as bossé pour ça, t'as pas, je veux dire, voilà. Donc moi, mon but c'est sur la durée, c'est d'exister sur la durée, voilà.
Comment ça s'est passé ton arrivée en France, en règle générale, en tant qu'artiste ou en tant que personne, en fait,
Bon, on va dire que, d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à ceux qui n'ont pas eu la chance. Enfin, il y en a beaucoup. Moi, j'ai eu la chance d'être née en France. Donc, j'ai jamais vécu en France, mais je suis née en France. Donc, je n'ai pas eu ce problème de papier. Ce qui m'a permis, ce qui m'a évité beaucoup de problèmes, on va dire. Donc, pour ça, ça c'était réglé. Bon. Mais c'était super compliqué. C'était dur parce qu'il fallait trouver un boulot. Et je voulais pas travailler parce que ça, alors là, ça, je voudrais que les gens le comprennent. Quand on est musicien, on n'a pas le temps de faire autre chose. C'est un métier à temps plein. Donc, je voulais absolument pas essayer de commencer dans Paris parce que t'es super prise par le... Hein, t'es prise dans le fil du truc. Après, tu oublies ta musique. Et après, tu as de l'alimentaire. Donc, ça m'intéressait pas. Mais c'est, je te dis, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré plein de gens. Bon, voilà, je vais être un peu, je sais pas, hippie. Je crois un peu au destin et en Dieu. Donc, au moment où tu ne t'attends pas à recevoir un truc ou un boulot ou tu crois que tout est foutu, bah, tu as un petit coup de fil qui passe comme ça, qui te dit viens faire une petite voix ou viens faire, je sais pas moi, une chanson ou des chœurs. Donc moi, je crois en ça. Mm-hmm. Et ça m'a permis de vivre beaucoup, de vivre de très très belles choses. Donc c'est très dur, mais j'ai pas vécu la galère de chez la galère.
Est-ce que tu considères que toi, en tant que Samira Bramia, mm-hmm. et toi en tant que membre de l'usine, mm-hmm. Vous fabriquez une culture alternative?
Complètement, parce que ce qui est fait à l'usine n'est pas fait, je vais être peut-être un peu, c'est pas péjoratif, mais n'est pas fait à Barbès, je veux dire, on fait de la musique algérienne, on va dire, hein, entre autres, mais qui n'a rien à voir avec, il y a un réel travail de réflexion, de créativité, de chercher à faire des choses qu'on n'a pas déjà entendues, qu'on n'a pas encore entendues, je veux dire. Et c'est super intéressant. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse dans la musique algérienne. C'est-à-dire qu'il faut qu'on évolue avec ce qu'on a eu comme culture. Et c'est ça qui se fait à l'usine. C'est vraiment une musique alternative. C'est vraiment une autre image de l'Algérie aussi. De toute façon, sans qu'on le veuille, on reflète ça. Donc voilà. Donc on fait de la musique complètement alternative.
Et est-ce que ce serait donc de la musique alternative pour la France, pour l'Algérie, pour vous,
pour le monde? Pour moi, Paris est une étape, sans être mégalo, mais je pense que tout Algérien est comme ça. On peut aller demain, j'aimerais bien aller faire un tour à New York, rester un an, et après aller à Copenhague. Je veux dire, on crie notre envie de nous ouvrir sur le monde et d'aller ailleurs et de montrer qu'on n'est pas différent, que que tu as des morceaux de Houssine où ça parle en kabyle, après ça passe en anglais, après ça passe en français, que tu as Samira qui chante de la pop et après qui va chanter de la folk, après qui va chanter un morceau du sud algérien, et que tu as Diwan de Bchar, que tu as, je sais pas, l'ONB, que tu as. C'est ça notre but, c'est de ne réellement pas s'enfermer dans un carcan, dans un moule, dans un. Voilà, je pense que c'est ça notre but, et c'est. La France. Je pense que notre erreur, enfin notre un peu notre déception, c'est qu'en venant à Paris, on croyait que c'était vraiment parce que c'est réellement une ville ouverte sur le monde. Enfin, il y a plein de gens qui viennent de partout. Mais tu te retrouves à une période, enfin à un moment, tu te retrouves sans le vouloir, tu te retrouves dans ta communauté. Donc c'est un peu décevant. Parce que nous, on est venu ici dans un état d'esprit où on voulait aller, je sais pas, moi j'aimerais bien faire un album de jazz, crooner, et le lendemain aller chanter avec, je sais pas, pour moi c'est ça le Paris, mais en fin de compte c'est pas ça, c'est un peu naïf de notre part de penser ça, mais je pense, c'est pas naïf, c'est pour nous c'était ça l'ouverture, mais en fin de compte c'est pas ça. J'espère que ça existera un jour.
C'est-à-dire que tu te sens un peu cantonné.
C'est même pas je non. Me sens, c'est que tu t'en rends pas compte, tu te retrouves dans ton truc. T'appelles un programmateur, tu lui dis je m'appelle Samira Algérien. Samira Algérien. Voilà, j'aurais dû faire Samira Algérien, je suis bête. Samira Bramia. Algérienne, ah, tu fais du rail. Non, je ne fais pas du rail. Sans être. Je sais pas, je me la joue pas, mais je ne fais pas du rail. Et quand t'appelles en France, ils te mettent tout de suite dans un truc où ils veulent faire de toi la Shimen Badi de bis. Ah, Samira Barbera, tu vas faire le truc de l'intégration, tu vas chanter en français. Non, je n'ai pas envie de ça. Je ne ferai jamais ça. Donc voilà, donc c'est vrai que. Je sais pas, peut-être qu'il faut, je pense réellement, là on a commencé dans une étape, enfin c'est pas moi, parce que moi j'ai rien fait, moi je participe au truc, mais l'usine, je pense qu'ils ont commencé à bosser sur ça, à essayer d'exister par eux-mêmes, enfin par nous-mêmes on va dire, et je pense que la prochaine étape ce serait bien de un peu de, comment dire, de snobber un peu. Le Paris et d'essayer d'aller voir ailleurs parce que je pense que le monde moi ça m'appelle, ça me dit hello, viens. Donc je pense qu'on va le faire. Il faudrait réellement proposer un plateau l'usine partout, mais ça il faut des moyens et j'espère qu'on les aura.
Danse avec des personnages ayant existé serait malvenu.
ست سنين دخلت المدرسة قالوا لي حفافة تاوني للحفافة شراو لي المحفظة طاوني 10 سنين قراية تفياس بالثانوية قالوا لي دخلي للدار هيا وما داروا فيا والدية قالوا خد نظام جديد خرجة من عيد العيد خويا رب اللحية وبويا دورها عبايا قلت يا لما يا العزيزة ايش هذا البال قالت لي صبري يا طفلة وعندي مفوت مع بابك Whatever you want, whatever you say It's not right Whatever you do, whatever you keep Do it in the dark No way, no way to turn on the light You get
À l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est l'émission Les Oreilles Loin du Front, en compagnie des artistes de l'usine.
Alors je suis Hichem Takaout, voilà, je suis né à Casablanca au Maroc, et voilà, je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans, c'est-à-dire plus précisément en Corse, Corse du Sud, à Porto Vecchio, où j'ai grandi, où j'ai commencé à faire de la musique et tout ça. Puis voilà, je suis musicien, je suis bassiste, je joue avec Chersi Di Bémol, avec Talveg, puis aussi avec pas mal d'autres artistes dans le raï, musique kabyle et autres. J'ai commencé à la batterie et à la guitare, puis la guitare basse est venue un petit peu plus tard. Il faut dire que j'avais mon petit groupe en Corse. Et comme il n'y avait pas de musiciens, j'ai forcé un petit peu mes amis à faire de la musique. Et je travaillais dans un magasin de musique aussi, ce qui m'a permis de toucher un petit peu à tous les instruments. Mm-hmm. Et j'ai acheté une basse pour un ami, et pour qu'il joue dans le groupe, parce que j'avais une batterie, une guitare, tout ce qu'il faut, quoi. Donc j'ai acheté une basse pour que mon ami joue. Puis de temps en temps, je touchais la basse jusqu'au jour où je me suis enregistré en jouant de la basse. Puis là, je trouvais que ça sonnait. Je me suis écouté, je me suis dit waouh, c'est trop bien, ça et tout. Donc, et depuis là, voilà, je continue la basse.
Et donc, tu es fondateur de Zalamette ?
Oui, avec Abdenour Djemaï, et Hervé Le Boucher, qui sont pas là.
Et Zalamette, alors, c'est quoi ?
Zalamette, c'est un mélange de. Enfin, à la base, c'est. Avec Hervé et Abdenour, on joue ensemble dans plusieurs formations différentes. Puis un jour, on s'est dit, ouais, voilà, pourquoi ne pas monter un groupe à nous, puis essayer de faire des concerts. Mm-hmm. Voilà, et le style musical, c'est à base de musique maghrébine, de Algérie, Maroc, mixé avec, enfin mélangé avec toutes sortes de musique. Ça peut être du reggae, de la salsa. La musique africaine ou latine.
Mmh. Voilà. Et qui chante, toi, non ?
Ouais, on chante avec Abdenour. Puis voilà, puis sinon, il y a du nouveau dans Zalamette. C'est Hafid Djemaï, qui est le frère de Abdenour, qui est en France depuis 2-3 ans, voilà, qui est résident maintenant ici. Et qui fait partie du groupe et qui chante aussi. voilà, comme son frère Abdennour, il a aussi une culture chaabi dans le sang. Puis aussi, il aime toutes les autres musiques. Donc, on va continuer ensemble avec Hafid.
Et vous chantez en quelle langue ?
En berbère, en arabe et en français.
Et donc, ton arrivée à l'usine, c'était quand et c'était comment ?
Mon arrivée à l'usine, c'était... en fait, je suis arrivé... On va repartir un petit peu en arrière. Mm-hmm. Je suis arrivé à l'âge de 18 ans à Marseille. Voilà, où j'ai fait... J'ai fait pas mal de groove, de reggae, tout ça. Et j'ai tourné dans tous les cafés concerts à Marseille, tout ça. Enfin, j'ai vite fait le tour parce qu'à Marseille, il n'y a pas vraiment de débouchés pour les musiciens. C'est très très dur. Donc j'ai décidé de monter à Paris. Et j'avais en fait un contact avec un groupe qui s'appelle Raikoum à l'époque, et qui répétait à l'usine. Mm-hmm. Donc quand je suis arrivé à Paris, j'arrivais directement à l'usine, quoi. Et voilà, et depuis, on a fait pas mal de... C'est là que j'ai rencontré Chercy des Bémols. Mm-hmm. Voilà, puis à l'usine, c'est un lieu qui est suffisamment grand, et ce qui nous permet de pouvoir faire nos maquettes et des albums, tout ça. Donc pour moi, l'usine, c'est un lieu vraiment... c'est un lieu qui... où on se sent chez nous, quoi. On y répète avec Zalamet, avec Chercy des Bémols, avec Talweg. Puis aussi, on a enregistré le deuxième album de Chercy des Bémols, Le Bandit, voilà, qui a été entièrement produit ici à l'usine. Chercy des Bémols, c'est le premier groupe qui a enregistré vraiment ici, qui a prouvé qu'on pouvait faire avec les moyens du bord un maximum.
Donc l'usine, tu dirais qu'elle t'a apporté quoi et qu'est-ce qu'elle t'apporte encore, enfin, je sais pas.
Ben, je suis bien content que le collectif de l'usine existe. Mm-hmm. Parce que moi, je dirais que ça m'a permis d'être directement connecté avec tout le milieu fusion maghrébine, je dirais, à Paris. C'est-à-dire, puis même au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, l'usine, c'est un endroit qui commence à être un petit peu connu. Il y a pas mal d'artistes du Maghreb qui rêvent de venir en France et à Paris, passer par l'usine. Mm-hmm. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui passent par là.
Donc c'est un peu un carrefour.
Voilà, ouais. Enfin disons, avant, c'était peut-être un petit carrefour, puis c'est croissant, quoi, c'est de plus en plus grand. Il faut dire aussi que l'Orchestre National de Barbès y est pour beaucoup, parce que c'est un groupe qu'on peut dire qui a vraiment cartonné un petit peu partout dans le monde, mm-hmm. et qui est parti d'ici de l'usine, et je pense que c'est le groupe qui a vraiment fait connaître ce lieu.
Et voilà. Comment ça se passe au Maroc, en Tunisie, quand vous produisez, comment c'est...
Ah, c'est super.
Est-ce que c'est particulièrement difficile d'aller faire des concerts là-bas ou... Enfin.
Difficile. Non, je dirais pas que c'est difficile, mais là-bas, il y a de la demande. Dire dans le style maghrébin, parce que faut dire que pour les groupes qui sont là-bas, c'est encore plus dur que. C'est vraiment dur pour eux de se produire, de se faire connaître et d'avoir accès à, je dirais, à la mixité dans la musique. Mm-hmm. Donc quand on joue au Maghreb, c'est vraiment le meilleur public qu'on puisse avoir. Parce qu'ils attendent que ça, quoi. Ils attendent que de voir de nouvelles choses, de...
Pour toi, c'est important cette diversité musicale et de création, c'est-à-dire de ne pas se cantonner à un style, d'avoir plein de groupes, de jouer sur plein de styles différents.
Ouais, moi je dirais que ça enrichit. Ça enrichit. Quand on fait des compositions ou des arrangements, mm-hmm. vaut mieux avoir fait pas mal de styles.
Mais à chaque fois que tu joues dans des groupes, donc on ne peut pas classer dans un style particulier. On peut pas mettre dans des cases, quoi.
Voilà, ouais, c'est très dur. C'est très dur. D'ailleurs, pour nous, pour Zalamet, c'est souvent on est un petit peu déçus de la manière dont on qualifie notre style musical. Des fois, on nous met dans les programmateurs, ils peuvent dire ouais, c'est du rail groove. Alors, ils utilisent le mot rail parce que c'est un mot connu. Et enfin, ça fâche un petit peu. Alors que nous, on aime plutôt dire qu'on fait de la fusion, la Maghreb fusion, plutôt que rail ou bien Kabyle Alors que le rail c'est un style. Et en fait, au Maghreb, tu fais 20 km, d'un village à un autre, le style il change complètement, c'est plus du tout les mêmes gammes, c'est pas les mêmes, c'est plus les mêmes instruments, c'est plus le même rythme, c'est-à-dire c'est très riche et très varié. Donc on peut pas vraiment dire ouais qu'on fait tel ou tel style. C'est-à-dire que déjà dans un pays comme le Maroc ou l'Algérie, déjà il y a toute une mixité dans la musique. C'est-à-dire que déjà à l'origine, même si on fait, si on peut dire qu'on fait les musiques traditionnelles maghrébines, déjà c'est des mélanges. C'est souvent des mélanges qui viennent de plusieurs horizons différents.
Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est l'émission Les Oreilles Loin du Front, en compagnie des artistes de l'usine.
Alors mon nom d'artiste c'est Azenzar.
Oui.
Oui, eh bien écoute, moi j'ai débarqué en... J'ai en tout cas commencé la musique réellement en... à mon compte en 77. Avant 77, j'avais accompagné un chanteur marocain avec un autre gars, un autre Algérien avec qui j'avais fondé le groupe Azenzar. Et donc, pourquoi 77? Parce que c'est l'année où on a fait un premier disque, un 45 tours. On a rencontré un autre gars, Smaïn Chinnoun. Puis on a commencé à tourner, à faire des petites choses comme ça, des petites apparitions par-ci par-là, dans des cafés, dans des mariages, etc. Jusqu'au jour où un vendeur de disques marocain nous a proposé de faire quelque chose vraiment, d'essayer de monter un groupe sérieux, etc. On s'est dit pourquoi pas, parce qu'à cette époque-là, la chanson kabyle, elle avait vraiment le vent en poupe. C'était l'époque où à Paris, on n'entendait pratiquement que ça. Idir, Cartonné, Jamal Allam, Durdura, voilà. Et il fallait trouver un nom, c'est lui qui nous l'avait suggéré, Azenzar, qui veut dire rayon de lumière. Et voilà, donc on est parti comme ça, on est parti dans ces années-là. En 82, on a fait un 33 tours que nous avons fait avec les moyens de bord qu'on avait à l'époque. On n'avait pas mis de grands moyens, bien sûr, hein, c'était vraiment des petites choses. Hein, mais on avait réussi un disque, ma foi, sympa. C'est un disque qui a pas marché, hein, qui a pas fait des merveilles, parce que personne derrière pour le pousser, pour le vendre, etc. En tout cas, le groupe a commencé à bien fonctionner. On a commencé à être appelé, un peu partout. On a fait pas mal de tournées en Bretagne, on a été en Suisse, on a fait une tournée d'un mois au Danemark. Jusqu'en 84, on a fait le dernier spectacle, c'était au Théâtre de l'Est parisien. Moi, j'avais mis le paquet pour contacter un maximum de gens, de la presse, écrite, de la télé, de la radio, etc. Ils ne sont pas venus. Alors, énorme déception. J'avais écrit à des tas de gens, j'espérais qu'ils les voir venir. Un seul m'a répondu à l'époque, et c'était génial, je garde encore la carte qu'il m'avait envoyée, c'était Costa Gavras. Je lui avais envoyé le disque, il avait adoré, il m'avait répondu, etc. Et je l'avais invité pour ce spectacle, il m'avait dit qu'il ne pouvait pas venir. Lui, il a été sympa, correct. Bon, donc les gens n'étant pas venus, la sono ce jour-là était catastrophique. Ça m'a foutu un coup dans le moral. Oh, le spectacle s'est bien passé pour le public. Hein. Les gens ont dansé, ils ont applaudi, certains sont venus me voir après pour me dire c'était bien, etc. Mais moi, je sentais bien que c'était pas ça. Et ce jour-là, j'avais dit à mes musiciens à l'époque, j'avais dit, ok, je crois qu'on va arrêter. J'ai pris la décision d'arrêter 6 mois et de voir un petit peu ce qui allait pas, quoi. Puis me reposer, parce que je vous dis tout à l'heure, c'était vraiment la galère, j'en avais marre. Et puis voilà, les 6 mois sont passés. 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis voilà, et puis j'ai fait autre chose. Puis j'ai complètement laissé tomber la musique. 20 ans. J'ai arrêté 20 ans. Je suis même rentré en conflit, je crois, avec la musique algérienne, en tout cas. J'écoutais du jazz. Mais pendant ces 20 ans-là, j'écoutais pas du tout. Je ne savais pas du tout ce qui sortait en Algérie, ce que les gens écoutaient. Et puis, je ne sais pas, miracle, je me suis levé un matin, probablement, avec l'envie d'écouter. Pas de chanter, mais d'écouter. Et je me suis mis à écouter. Et j'ai écouté des choses géniales. Des choses super. J'ai découvert l'ONB. Putain, c'est génial. J'ai découvert Gnawa Diffusion. J'ai découvert chaque Sidi bémol. Et je me suis dit, purée, la musique algérienne, c'est génial. On peut faire des choses sympas quand même, avec le rythme, avec. Et ça m'a donné envie non plus d'écouter seulement, mais de la faire, la musique. Et puis, il y a eu ces tragiques événements en Algérie, en Kabylie, le printemps noir. Et là, je me suis dit, non, j'ai pas le droit de continuer à me taire, il faut que je bouge, il faut que je parle. Il faut que je dise que c'est pas normal, c'est ce qui se passe. Puis voilà.
Donc, tu as reformé.
Et donc je suis redescendu dans ma cave, là où j'avais déposé ma guitare dans son étui, sans jamais l'ouvrir, mais vraiment pas une seule fois. Pas une seule fois. L'étui était poussiéreux, la guitare avait ses cordes cassées, etc. Enfin bref. Et j'ai retrouvé à l'intérieur des textes que je m'apprêtais à chanter à l'époque, dans les années 80, que m'avait peut-être écrit pour moi Moacherbi, et je me suis mis à les travailler. D'autant plus que ces textes-là avaient trait à la situation, à la question identitaire en Algérie. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental, ça. Et je m'en suis emparé de nouveau, j'ai commencé à les travailler. J'ai, je ne sais pas par quel vecteur, réussi à retrouver les coordonnées de Moacherbi, qui était heureux comme tout de me voir revenir avec cette ambition de chanter ces textes. Je lui en ai demandé d'autres et je les ai travaillés, sans savoir vraiment où j'allais. Mon ambition, c'était de faire un CD. Voilà. Entre-temps, j'ai repris contact avec Cheikh Sidi Bémol. Donc j'ai repris contact avec lui. C'est comme ça que j'ai appris l'existence de l'usine. Que c'était un lieu sympathique où gravitaient des tas de musiciens algériens, qu'on pouvait donc trouver dans cette ambiance-là de musique, cette ambiance conviviale, amicale, etc. Des possibilités de faire des échanges, etc. Et qu'on pouvait, moyennant une cotisation, pouvoir venir répéter. Et qu'en plus, il y avait un studio d'enregistrement ici. Et donc, Hossein m'a, Cheikh Sidi Bémol m'a proposé de rentrer au sein de cette association-là. Et évidemment, je lui ai fait écouter ce que je faisais, ce que je préparais. Et il a aimé. Il a trouvé que c'était sympa, c'était bien, qu'il y avait du potentiel, etc. Et nous voulons lancer donc dans ce projet ensemble. Voilà. Et maintenant nous avons terminé en fait. Hein.
Donc Azanzar, voilà. Alors c'est.
Donc Azanzar, oui, voilà. C'est vrai que j'avais parlé de groupe à l'époque. Quand je suis revenu, j'ai eu envie de reprendre contact avec un qui a été là depuis le début, Smaïn Chinon. Mais bon, apparemment, ce n'était plus son truc. Je l'ai fait venir, je lui ai montré ce que je faisais. Il m'a même dit qu'il s'attendait à autre chose, etc. Je crois qu'il n'avait pas, l'ambition, la flamme que j'avais vue chez lui. Une vingtaine d'années auparavant, il n'avait plus envie, je crois. Et donc, je me suis lancé tout seul en me disant, OK, les musiciens, je verrai bien. Voilà. À ce niveau-là, j'ai eu encore plus confiance quand je suis rentré à l'usine. Parce que je me suis dit, OK, là, c'est pas possible que je ne trouve pas les musiciens qu'il me faut. Pourquoi louper l'occasion que j'ai fait un clip aussi? Je l'ai fait ici, le clip. Voilà, je l'ai fait ici, puis quelques prises, quelques scènes extérieures dans le coin. Mm-hmm. Voilà.
Donc c'est une autoproduction.
C'est une coproduction. C'est une coproduction.
Ouais.
Avec voilà, CSB Production. Je crois savoir que c'est une toute nouvelle entité. Hein. Et mon disque est le 0001, un truc comme ça, oui. Voilà, CSB Production. Mm-hmm. Voilà.
Azanzar, c'est un groupe que tu définirais comment au niveau du style musical?
Éclectique. Est-ce que ça se dit, ça?
Bien sûr.
Ça se dit, hein? Éclectique. Oui. Il n'y a rien de vraiment défini. C'est de la chanson kabyle, bien sûr. C'est de la chanson kabyle. Il y a, je ne sais pas, parfois un son folk de temps en temps, un son jazzy de temps en temps. Enfin, un son des clins d'œil comme ça. C'est un mélange de tout. Hein. Mm-hmm. C'est un mélange de tout. Donc, ce sont toutes les influences que j'ai eues, moi. Je ne crois pas, je ne pense pas avoir gardé tout à fait le style que j'avais dans les années 80. J'ai changé. Mais voilà, je crois que c'est éclectique, c'est un mélange de tout. Mm-hmm. Je chante en kabyle, bien sûr. Je chante en kabyle. Mm-hmm. J'ai bien l'intention de chanter en français. J'ai d'ailleurs, je prépare 1, 2, peut-être 3 textes en français dans le prochain. Mais j'ai bien l'intention de le faire. Et en arabe également, en algérien.
Voilà. Est-ce que tu dirais qu'ici se fabrique une culture alternative
ou... Je crois qu'ici, ce que se fabrique surtout, c'est une envie de... c'est une envie probablement de faire des choses collectives. De faire les choses collectivement. L'usine offre cette possibilité-là. Jusqu'à maintenant, je crois que la musique algérienne a souffert de ça. Hein. Je crois que chacun était dans son coin, à la limite, ne sachant pas ce que fait l'autre. Ou alors, quand il lui arrivait une nouvelle, il ne cherchait pas à savoir trop ce qui se passait. Ici, il y a cette possibilité-là. Cette possibilité de rencontre, d'échange, d'échange d'opinions, un mélange de genres aussi. Hein, un mélange de genres. Voilà ce que permet l'usine. Mmh. On est bien. Moi, je me suis toujours senti bien ici. Voilà.
Et tu parlais tout à l'heure de la question identitaire qui mmh. est très importante pour toi. Et mmh. Donc, qu'est-ce que tu entends par question identitaire et en quoi c'est important ?
En quoi c'est important ? Déjà, je veux tout de suite te dire que beaucoup de personnes me reprochent d'ores et déjà d'avoir consacré sur 13 titres d'en avoir consacré une douzaine sur cette question-là. Or, effectivement, c'est une chose qui est importante pour moi. Je t'expliquais la raison pour laquelle je suis revenu à la musique. Je pense, je n'ai pas très sincèrement la sensation, le sentiment d'être reconnu dans ma chair, dans mon identité, en tant que... C'est l'Algérien qui te parle, hein ? L'Algérien jusqu'à la moelle, l'Algérien complet, plein et fier de l'être. C'est l'Algérien qui te parle et qui te dit « Je n'ai pas l'impression d'être connu dans ma spécificité de berbère. » Et je ne le serai jamais tant que dans la Constitution, il ne sera pas écrit noir sur blanc que la seule langue nationale n'est pas l'arabe, qu'il y a le berbère aussi. La mazère. Et ça ne changera jamais pour moi. Tant que ça ne sera pas fait, je continuerai à revendiquer ça. Mm-hmm. Pas seulement sur cette question-là, la question identitaire, la question culturelle. Je suis engagé surtout sur tout ce qui est vie sociale, sur le côté social. Tu vois. La liberté d'expression, pour moi, quelque chose est fondamental, comme pour tous les Algériens, je l'espère. Mm-hmm. C'est quelque chose de fondamental. Et je le dis, j'ai une chanson qui s'appelle Inid, un texte de Mouachelbi, ça veut dire « exprime-toi ». Tu vois, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je pense que les Algériens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Mm-hmm. On a le droit à une justice équitable. On a le droit à une véritable démocratie. On a le droit à un travail. C'est pas le cas. 30% sont au taux chômage. On a le droit de s'exprimer. Mm-hmm. On a le droit d'avoir des élus compétents. On a le droit de les virer quand on juge qu'ils ne sont plus compétents. Voilà. Les Algériens ont le droit à une presse libre, indépendante du pouvoir central. Ce n'est pas le cas. C'est ces choses-là que moi, j'aborde. Mm-hmm. Donc, j'ai pas envie forcément de faire toute ma vie. J'aimerais que ça s'arrête. J'aimerais que tout rentre dans l'ordre pour chanter l'amour, n'est-ce pas ? Thank you.
أشغر يحمل واسد سيدي دير أشغر ينفع يطيش سيهنير إني دا شغر يدر غني ذرير أشغر يعصي الفازن تزير إني دينير إني دوت ساكوة ديني
Vous êtes bien sûr Fréquence Paris Pluriel 106.3, les oreilles loin du front, en compagnie des artistes de l'usine.
Qui je suis ? Je suis Samia Diar. Voilà, je suis d'origine algérienne. Je chante, je joue de la guitare et voilà, je suis auteur-compositeur.
Donc, quel est ton parcours d'artiste, de personne ?
C'est un petit parcours. En fait, j'ai commencé la guitare en Algérie. J'accompagnais des musiciens, enfin j'étais dans un groupe en Algérie et puis après en 93 je suis partie en Tunisie pour apprendre, pour voir autre chose et tout ça, pour essayer d'évoluer aussi. Et après quelques années, après 5 ans, je suis retournée en Algérie pour réintégrer le même groupe que j'avais quitté il y a 5 années et puis voilà. Et après arrivée en France en 2002.
D'accord. Ouais. Tu arrives ici, comment tu rencontres l'usine,
Comment je rencontre ? Ben, par le biais d'amis, c'est-à-dire que j'ai connu, je connaissais Adlalou, qui est un journaliste algérien, et puis qui m'a branché avec Ourida. Il m'a dit à une jeune algérienne qui organise des concerts, qui a beaucoup de contacts et tout ça, Voilà, donc c'est par le biais d'Alalou et après Orida que j'ai connu l'usine. Voilà. Après, j'ai connu la grande famille de l'usine.
Mm-hmm. Et toi, alors musicalement, comment tu te définis? Quel est ton style?
Enfin, c'est un peu, à chaque fois, c'est un peu dur de mettre dans un style bien particulier. Je pense que je fais de la chanson algérienne, quoi. Voilà. C'est chanson d'Algérie. Mm-hmm. Voilà, ça comporte un peu tout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de par les instruments, voilà, la manière de chanter aussi. Donc c'est vraiment l'Algérie, quoi. Mm-hmm.
Et donc tu as combien de musiciens avec toi?
On est une formation de 4 personnes. Donc il y a un pianiste qui joue du Rhodes, il joue aussi du Goumbri, et il joue du Melodica, Bendir et Karkabou. Il est arrangeur aussi dans le groupe. Sinon il y a un violoniste. Enfin, le pianiste, il s'appelle Tariq Chawash. Le violoniste, il joue du mandol aussi, c'est Mokran Adlani. Voilà, il joue du mandol, violon et tout ça, super bon musicien. Et il y a la percussion d'Herbouka Bendir Amar Chaoui. Voilà, et moi je suis à la guitare.
Et au chant,
bien sûr.
D'accord. Et donc, tu chantes en arabe et en français?
Ouais, je chante en algérien plutôt. Et un tout petit peu en français. Mmh. Voilà. C'est deux langues. J'aimerais bien chanter du berbère aussi, mais je ne connais pas, donc je tâcherai d'apprendre. Uh-huh. Parce que j'aimerais bien, parce que ça représente, ça fait partie de ma culture, de mon pays, et je pense que c'est important pour moi de chanter cette langue.
Mmh. Et c'est important pour toi de chanter en Algérie, j'imagine? C'est ta langue maternelle?
C'est ma langue, c'est naturel, je ne peux pas faire autrement. Je pourrais chanter un peu d'italien, parce que je parle un tout petit peu l'italien, mais bon, c'est naturel, l'algérien, c'est ma langue. Voilà.
Et le français?
Le français aussi, ça fait partie de ma culture, parce que tous les Algériens, ils parlent français aussi, donc c'est naturel aussi.
Mmh. Et donc pour toi, le fait de venir en France, est-ce que ça t'a ouvert des portes? Est-ce que,
bien sûr, est-ce que... bien sûr, bien sûr. Justement, j'ai voulu quitter l'Algérie. Le premier but, c'est ça, quoi. C'est par rapport à ça, par rapport à... C'est-à-dire, en Algérie, je me retrouvais dans un petit cercle. Je tournais autour du pot. J'avançais pas. Donc, c'est bien de voyager, d'aller voir autre chose. Et surtout, venir à Paris, qui est la capitale de l'art... Donc ce n'est que des choses bénéfiques que je peux trouver, et voilà, donc, et en plus Paris, parce que je parle français, parce que j'ai des amis ici, voilà, donc c'est normal aussi.
Mmh. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ton travail
ici en France? Enfin, le premier truc, c'est les papiers. Donc ça, c'est inévitable, c'est tout de suite, c'est un grand obstacle, quoi. On ne peut pas travailler, on peut rien faire, on ne peut que faire du travail au black, et c'est risqué, il faut avoir du courage, quoi, pour le faire, c'est pas évident. Mm-hmm. Et donc c'est le premier obstacle qu'on rencontre ici, et dès qu'on régularise notre situation et tout ça, on arrive à mieux, c'est-à-dire on se sent... être, vivre, on se sent comme un être humain normal, comme tout le monde. On peut travailler, on peut ne pas travailler, on peut voyager, on peut. Et donc, et c'était vraiment un problème pour moi, même si j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai trouvé beaucoup de personnes qui m'ont soutenue, qui ont été autour de moi et tout ça. Donc, je n'étais pas perdue, quoi. Mais sinon c'était 2 années de, entre guillemets, de galère, quoi.
Et aujourd'hui, ça...
Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai mes papiers, je suis intermittente du spectacle. voilà, j'ai mon album, je fais des concerts, pas beaucoup, pas comme je le voudrais, mais ça va. Franchement, comparé à d'autres, j'ai énormément de chance.
Et quels sont les thèmes que tu abordes, toi, dans tes
chansons? En fait, moi, je chante mon Algérie à moi, je chante ma jeunesse, je raconte ma petite vérité, quoi, si on veut. par rapport aux problèmes des jeunes, par rapport à la politique, par rapport aux conditions de la femme, par rapport au chômage, par rapport à tous ces sujets du quotidien et de la vie de tous les jours des Algériens.
Mmh. Voilà. Est-ce que quand tu étais en Algérie, quand tu enfin, je ne sais pas si c'est ta formation de musicienne qui prime.
Non, je suis chanteuse. Je suis chanteuse, ouais.
Et est-ce que ça t'a posé des problèmes
d'exercer mon métier là-bas? Franchement, pas du tout. C'est paradoxal, mais pas du tout. Je tournais beaucoup. Je passais à la télé, à la radio. J'ai sorti un album et tout ça. Et justement, c'est un truc qui me pose problème, quoi. J'arrive pas à comprendre, avec tous les problèmes qu'il y a en Algérie, tout ça, que je rencontrais dans ma vie de femme de tous les jours. Mais en tant qu'artiste, j'arrivais à me produire, j'arrivais à m'exprimer. Après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup, parce que en fait, c'était un groupe, on était deux, il y avait un chanteur, musicien, et moi aussi, donc on se partageait la scène, et donc c'est vrai que les gens n'ont pas beaucoup écouté ce que je faisais, donc j'avais pas énormément de répertoire, beaucoup de choses à dire, un tout petit peu, mais pas beaucoup, pas comme aujourd'hui, quoi. Je fais des concerts d'une heure et demie, deux heures, et donc je dis plus de choses, et je pense que c'est ça qui m'a permis aussi de passer, et de faire, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre, quoi. Que en tant que femme dans la vie de tous les jours, je rencontrais beaucoup de problèmes, et en tant qu'artiste, pas du tout. C'est étonnant.
Et au niveau de la production, tu viens de me dire que tu avais déjà produit un album en Algérie, et la différence par rapport à ici,
enfin, je trouve qu'il y a pas beaucoup de différence, parce que le résultat est le même, c'est-à-dire il faut avoir un producteur, un manager, il faut avoir toute une troupe derrière soi pour pouvoir avancer. Et je pense que ça c'est pareil, quoi, que ça soit en Algérie ou ici. Sauf qu'en Algérie, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus facile parce que sur la scène, il n'y a pas beaucoup de chanteurs, il n'y a pas énormément, et c'est pas comme ici en France où tu as des styles, un milliard de styles, un milliard d'artistes. Et donc en Algérie, c'est vrai que l'album se vendait, mais bon, j'ai signé avec une maison de prod qui était un peu mafieuse sur les bords. J'ai dû résilier le contrat au bout d'un an, et donc voilà, mais bon, c'était une bonne expérience. Voilà, mais sinon, comparer les deux, c'est pareil pour moi.
Quel est ton rapport à l'usine? Qu'est-ce que ce lieu t'apporte? Qu'est-ce que toi, tu y fais?
Ben, je répète, j'ai répété ici il y a quelques années quand j'ai débuté, quand j'étais là en France au tout début, c'est en 2002, j'avais une date au Cabaret Sauvage, dans un festival féminin. Et donc, il fallait trouver un lieu, et grâce à Lalo et Ourida, j'ai pu trouver ce lieu. Et donc j'ai pu répéter, voilà, ils m'ont fait de super bons prix. Je pouvais pas, à l'époque, je travaillais pas, donc j'avais pas assez de moyens et tout ça. Avec Hussein, il m'a tout de suite ouvert les portes et tout ça. Il m'a dit, il n'y a aucun problème, voilà, tu rentres, t'es chez toi et tout ça. Et j'ai pu répéter, monter la formation, et j'ai pu faire le concert dignement, parce que j'ai pu travailler, j'ai pu le construire, et donc ça m'a apporté ça, quoi. Ça m'a apporté c'était la première porte, le premier pas, et tout ça c'était ici. Et donc et après c'est la rencontre avec les musiciens, les artistes, des poètes, des peintres et tout ça, donc c'est la rencontre avec d'autres artistes qu'on peut pas voir tout le temps, souvent, et tout ça. Quand on a envie de les voir, on vient ici, et voilà, on se rencontre.
Mmh. Et tu viens de, enfin, je sais pas, tu viens de produire un premier album,
enfin, ça fait 2 ans, j'ai sorti un mini-album, un 5 titres, voilà, avec, c'est une autoproduction, donc voilà, on essaye de c'était, en fait, c'était prévu pour démarcher, et comme on a eu une très très bonne qualité de son et tout ça, on s'est dit pourquoi ne pas le vendre après les concerts, et donc en même temps on peut démarcher avec, et en même temps on peut les gens peuvent le garder, peuvent l'acheter, le garder comme, comme un vrai album, quoi. Mmh. Voilà. Moi, je crée pas ici. Donc, je crée dans la cuisine, chez moi, à la maison. Mmh. Voilà, j'écris là-bas et je crée là-bas. Voilà. Donc, je n'ai pas, par rapport à la création, je n'ai pas beaucoup de rapport avec, avec l'usine. Et en fait, quand j'écris, et surtout quand j'écris, je pense que c'est dans ma tête, je suis en Algérie. Donc, c'est ça aussi le truc. Je voyage sans voyager aussi. Quand je compose, en fait, ma tête s'enrichit de la culture ici en France, de toutes les richesses que peut contenir Paris. Et quand j'écris, c'est pour moi, je suis en Algérie et je prends avec moi tout ce que j'ai pu entendre, tout ce que j'ai pu absorber comme tout, comme l'art, comme amour, comme tous les sentiments que j'ai pu prendre et absorber. Et je compose comme si que j'étais en Algérie avec toutes ces choses-là.
Toujours à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est l'émission Les Oreilles Loin du Front et on est toujours à l'usine.
Je m'appelle Ourida et je m'occupe en fait depuis de nombreuses années maintenant, en fait depuis bientôt 10 ans, mais ça fait 8 ans que c'est très actif, d'un site internet et d'une association qui s'appelle Planète des Aides, avec la lettre D et la lettre Z, qui est le code international de l'Algérie. Mmh. Et pas à IDES, quoique ça nous correspondrait bien, les aides. Voilà.
Donc Planète des Aides, comment c'est né?
C'est né par la volonté de deux personnes, c'est Sédic Madaoui et Farid Yaker, qui ont fait appel à moi. Ils ont eu cette idée en 97, en fait. C'est là que l'association a été montée. Et c'est l'année où je suis arrivée d'Algérie aussi, moi. Et ils ont eu une très bonne idée, je pense, parce qu'il y avait un réel besoin d'un espace qui rendrait compte de ce que font les créateurs algériens, principalement ceux qui étaient arrivés à cause des conditions qu'on connaît en Algérie et qui continuent à créer ici, mais souvent sans qu'il y ait d'informations qui circulent par rapport à ce qu'ils faisaient. Et il y avait en même temps une réelle demande de la part d'un public qui recherchait ce type de programmation ou qui recherchaient à rester en lien, ne serait-ce qu'à rester en lien avec la culture ou avec des événements culturels. Donc voilà. Et ils m'ont proposé ça, et en fait, ça me correspondait très bien que je n'avais jamais touché à Internet, sauf pour faire quelques recherches. Et j'ai commencé donc à travailler, à apprendre comment faire des pages en HTML, et c'est de manière autodidacte, 17 heures par jour, souvent. Et on a lancé le site... D'abord en 97, et puis on n'avait pas les moyens, travailler ailleurs. Moi, il fallait que je travaille aussi pour vivre. Donc on l'a mis un peu en stand-by. Et en 99, on a vraiment... eux ont mis les moyens de leur poche, en fait. Et moi, j'ai mis mon temps. J'ai pu avoir un CEC, comme j'étais en situation assez difficile avant. Et c'est ce qui nous a permis ce qui m'a permis, moi, de m'y mettre à plein temps. Mmh. Et de commencer vraiment à activer, à monter des réseaux, à animer des réseaux, en quelque sorte. Faire circuler l'information, mais aussi à rester donc en contact avec ce qui se passait et à essayer de rendre compte de ça. Ça entraîne évidemment beaucoup de rencontres avec des artistes, des auteurs, des projets, des porteurs de projets aussi, des associations. Et de fil en aiguille, ça nous amène aussi à faire des créations. Donc on en a fait, musicales ou des spectacles pluridisciplinaires, souvent sans moyens, mais avec une grande qualité. C'était ça, d'abord celle du cœur, parce que tout le monde s'impliquait vraiment, tout le monde mettait du sien. On a des amis qui tiraient des affiches, d'autres les collaient, etc. Et ça nous a, depuis donc des années, en fait, on a fait pas mal de choses, finalement.
Mm-hmm. Donc, c'est une assoce,
c'est une assoce, voilà. en même temps, et c'est une asso qui est là vraiment en même temps et qui essaye de l'aider, bien que ça soit très difficile faute de moyens, que chaque fois il faut passer beaucoup de temps à aller chercher des moyens pour en obtenir finalement que très peu pour des projets qui finalement coûtent beaucoup plus cher. Mais c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses aussi sans moyens, et en même temps ça nous fragilise. Mais c'est une asso qui est à l'écoute des artistes avant tout. On ne peut pas rendre compte de tout ce qu'on reçoit nécessairement, et ce n'est pas le but non plus. Mais c'est de rendre compte de projets qui, toujours subjectivement évidemment, quelque part, ont un intérêt réel parce que l'artiste qui les porte ou l'association a un vrai... Il y a du sens quoi, dans ce travail, et il y a une honnêteté, il y a voilà, de la sincérité. Et je pense que c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui a fait peut-être qu'on a fidélisé quand même beaucoup de monde à travers la lettre d'info. Et c'est ce qui fait que j'ai du mal à arrêter, bien que je sois bénévole depuis 2 ans, parce que je sens que voilà, quand un artiste m'envoie une info, même pour un concert, je me sens en quelque sorte presque responsable de renvoyer ça à tous les nombreux abonnés qu'on a. C'est vrai qu'en quelques clics, même si ça prend un peu de temps pour nous, parce qu'on a plein de fichiers différents et tout, de le faire, c'est important. Voilà.
Souvent, vous parrainez plus ou moins je ne sais pas si c'est du parrainage, vous offrez des places, etc. Donc ça implique des partenariats, des choses comme ça.
C'est des choses qui se montent en général assez spontanément. C'est vrai qu'on est sollicité pour ça. Il y a des films qui sortent, il y en a un qui va sortir encore bientôt d'un réalisateur marocain, par exemple. Et on nous appelle pour qu'on retransmette l'info, très souvent. Alors que nous, on aimerait bien qu'on nous appelle plus en amont pour qu'on puisse proposer des artistes. Parce qu'on est en contact avec des artistes et que souvent des structures, que ce soit la Villette, la Cité de la Musique, ils devraient venir chercher de notre côté. Parce que ça leur permettrait de découvrir des artistes qui sont en voie, qui sont en cours de développement, qui sont peut-être moins connus, mais qui sont très intéressants. Donc nous, on nous envoie plutôt les infos au niveau pour une communication comme un média, en fait. C'est un site internet, on nous voit d'abord comme ça. Peut-être c'est nous qui avons mal communiqué aussi. Mais donc voilà, on nous envoie ça, et c'est vrai qu'en contrepartie, puisque ce qu'on devrait faire d'ailleurs, c'est de demander une rémunération ou au moins un don à l'association, surtout quand c'est des organismes, comme des maisons de la culture assez prestigieuses. Mais en contrepartie, on demande au moins, ou on nous propose régulièrement d'offrir des places à des internautes, à nos internautes. Donc on fait des concours où on offre des places au plus rapide. C'est un peu du troc, en fait. On fonctionne beaucoup comme ça. En contrepartie, pouvoir au moins faire plaisir aux internautes. Voilà. C'est assez utopique comme projet, parce que je ne crois pas qu'il en existe beaucoup de ce type, qui fonctionne de cette manière, sans moyens. Mais on a beaucoup de chance d'avoir un outil qui est très peu coûteux, finalement, quand même. Il faut quand même un gros investissement personnel, notamment de ma part. Ça me prend beaucoup, beaucoup de temps et il faut trouver des solutions. Il faut que les internautes nous aident aussi, voilà, en contrepartie, les artistes et les structures. En fait, je pense que vous avez rencontré pas mal d'artistes là aujourd'hui, et parce qu'on est dans le même lieu, de là où vous prenez ce son d'ailleurs, de l'usine, notre vieille usine. Et même avant d'être à l'usine, en fait, on connaissait ces artistes-là, on en connaît d'autres qui ne répètent pas à l'usine. Et on suit, enfin personnellement, moi je suis le parcours de pas mal de groupes depuis des années et des années. En étant vraiment un petit peu conseil aussi, en donnant des contacts, parce que je suis forcément amenée à rencontrer plus de programmateurs ou plus d'organisateurs, et à retransmettre des infos également, à leur retransmettre des infos ou à répondre à leurs demandes. Et c'est vraiment des groupes, il y en a beaucoup d'ailleurs, mais qui font un travail très intéressant. Et dans la prolongation, c'est évident que de notre travail, de notre rencontre avec eux, c'est important qu'ils tournent. Je crois que c'est un gros problème pour eux aujourd'hui, de trouver des structures professionnelles. C'est un problème pour tout le monde, mais ça l'est peut-être plus particulièrement pour des groupes qu'on cantonne, une dénomination, c'est un groupe maghrébin, oui, le rail, c'est pas du rail. Quand on organise des festivals et qu'on voit qu'il y a des publics qui viennent par hasard et qui découvrent la musique de Cheikh Sidi Bémol, par exemple, entre autres, et qui disent « Ah, on savait pas que ça existait, c'est génial », que des personnes qui comprennent même pas la langue achète 2 albums suite au concert parce que ça les a vraiment fait kiffer, voilà. On se dit qu'il y a un gros travail. En fait, moi, je me dis qu'il y a un gros travail pour faire connaître ces artistes-là et pour leur permettre d'être vus par des journalistes et de rencontrer des professionnels également dans de bonnes conditions de scène. C'est ça qui est important. Donc, c'est toute une chaîne et un immense chantier. C'est peut-être un peu plus difficile quand on est... Je pense, hein, je ne le pensais pas avant, mais je pense aujourd'hui. quand on n'est pas né ici, qu'on n'a pas suivi un cursus, et qu'on vient d'ailleurs et qu'on n'a pas les mêmes repères. Et voilà, donc je pense que c'est important d'accompagner ce genre de projet. Mmh. C'est ce qui fait que là, j'ai bouclé une demande, par exemple, pour le Facilt, qui a maintenant changé de nom. Mais je ne sais même pas si on aura des moyens. On n'en a jamais eu deux, alors qu'on participe pleinement à l'intégration. On en a demandé une fois, il n'y a pas eu de réponse. Mais c'est vrai qu'il fallait peut-être qu'on leur demande plus. Mais en même temps, je considère que notre travail, il est vraiment très, très important, quelque part. Le fait d'être un passeur d'infos, qui est tout sauf vraiment fermé sur la communauté, au contraire, qui essaye de s'ouvrir, c'est très, très important. De rendre compte de ce que font les uns et les autres et d'être en même temps un passeur non institutionnel. C'est très important. Parce que j'ai vu, par exemple, il y a le musée de l'immigration qui se crée, ils ont un magazine, ils ont une lettre, mais ça reste institutionnel. C'est très intéressant, c'est important. Ça reste institutionnel. Mais il faut aussi des espaces de plus grande liberté. Il faut des espaces qui sont plus réactifs aussi, parce que plus souples. Et je pense que c'est ce qu'on représente aujourd'hui, quelque part. Donc c'est vraiment important qu'on puisse être soutenu. Et le projet qu'on a monté, c'est de pouvoir faire une compilation qui serait distribuée, envoyée gratuitement à plus de 2000 personnes professionnelles du métier, presse, programmateurs. Et c'est important que ça puisse leur arriver. Donc j'espère qu'on aura quelques deniers, on va dire. Pour le reste, on se débrouillera toujours. On est à l'usine depuis 2003. En fait, avant ça, on était rue de l'Espérance, dans le 13e. Un joli nom, tout à fait. Et c'est vrai que bon, c'est très bien aussi d'être là. C'est d'être là avec des artistes, parce qu'il n'y a pas que des musiciens à l'usine. Principalement des musiciens. Mais voilà, ça nous permet aussi de rester en contact.
Mm-hmm. Donc toi, tu viens à l'usine régulièrement, alors du coup, très...
Ah, ben moi, l'usine, c'est mon usine, quoi. Je vais à l'usine. Je vais à l'usine. Je suis là le plus souvent, d'ailleurs. Je suis une des permanentes, finalement. Mm-hmm. Parce que les groupes tournent. Ils ont des créneaux, mais voilà, je suis là. Je passe aspirateur.
C'est
côté
sympa, quoi.
Ouais, non, c'est vrai que c'est triste, d'ailleurs, si on la perd, parce que c'est pas sûr qu'on puisse rester au-delà de 2007, et on lance un appel pour ça, d'ailleurs, parce que ce serait vraiment bien que l'usine puisse continuer à exister. C'est un lieu de création important, même s'il n'est pas très visible comme ça. Mais c'est très, très important. Et c'est vrai qu'on serait très, très triste de devoir quitter l'usine. Ou de ne pas pouvoir avoir un autre lieu pour continuer ce travail. Voilà, parce qu'il y a une émulation. Il y a une vraie émulation et c'est important pour nous tous. Tout ce que je dirais, en fait, tout ce que j'aimerais ajouter aux auditeurs, c'est garder les oreilles bien ouvertes. Voilà, il faut garder les oreilles ouvertes, il faut rester ouvert, il faut rester curieux. Je crois que c'est le plus important et on en manque tellement aujourd'hui de cette curiosité. C'est très dur, les gens se renferment. Et aujourd'hui, il faut continuer à rester curieux. Donc venez nous découvrir à travers Internet, écoutez la musique. Écoutez notre musique, voilà.
C'est quoi l'adresse du site ?
On trouve notre site sur le site de l'usine, mais c'est www.planète, sans e à la fin, un tiré, la lettre D, la lettre Z.com.
Voilà, l'émission se termine pour aujourd'hui. On retrouvera l'usine la semaine prochaine pour la dernière partie de cette série. Je rappelle donc que l'usine est à la recherche d'un nouveau lieu puisque le bail de son lieu actuel arrive à terme à la fin du mois de juillet et donc il lance un appel à locaux. Donc vous pouvez les contacter en passant par le site www.lousine.net, L-O-U-Z-I-N-E.net, Lousine, ou en passant par les oreilles du front, www.loldf.org. En attendant, vous pourrez réécouter cette émission sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel vendredi à 12h30 jusqu'à 14h, puisqu'elle est rediffusée vendredi de 12h30 à 14h. Et vous pourrez également réécouter tout ça sur notre fabuleux site. Vous trouverez plein d'autres choses très intéressantes. www.loldf.org.